Et quand je dis témoignage, c'est simplement pour vite faire le lien avec notre partage ce matin. Et j'ai donné le titre « Ne pas être emporté par la vague » avec comme trame de fond justement le souci du bon témoignage chrétien. Et c'est vrai que nous sommes de plus en plus poussés dans nos derniers retranchements, poussés dans nos limites, je dirais, les limites de l'acceptation, les limites de la compréhension, les limites émotionnelles. Et si nous n'y prenons pas garde, peut-être aux limites de notre amour, aux limites du bon témoignage chrétien. L'injustice, la violence, le méchant, comme l'appelle l'Écriture, qu'est-ce que tout cela a comme influence sur nous? La méchanceté et la violence nous interpellent et elles risquent de remettre en question même jusqu'à notre charité chrétienne. L'injustice, l'écart toujours croissant entre le pauvre et le riche, dénoncé avec une certaine véhémence par des candidats à l'élection présidentielle, etc., etc. Lors de nos études bibliques sur le survol des petits prophètes, nous avons pu réaliser combien l'injustice, la violence insupportaient Dieu et qu'elles étaient la cause de jugements divins envers son peuple qui pratiquait de telles choses. Et nous ne pouvons que constater que le monde d'aujourd'hui donne toujours libre cours à ces mauvais agissements. Que devons-nous penser, en tant qu'enfants de Dieu, de telles pratiques? Quelle sorte de réaction ou de jugement portons-nous face à la violence, à l'injustice et à la méchanceté? Quels sont mes jugements, mes pensées profondes? Quel est mon raisonnement? Et la parole de Dieu nous fournit quelques indications et même des témoignages personnels qui peuvent nous aider dans notre appréciation à l'égard de ceux qui pratiquent de telles choses. Alors, bon nombre de personnes sont horrifiées, et c'est normal, à la vue des faits divers, des crimes, des corruptions, des péchés abominables, et certains pourraient être enclins, puisqu'ils sont chrétiens, se disent chrétiens, ou parce qu'ils ont reçu une bonne éducation, de penser qu'ils sont différents et donc forcément meilleurs. D'autres pensent que les personnes qui font ces choses sont inspirées ou entraînées par des démons, ou bien qu'ils sont malades et donc complètement irresponsables de leurs actes. D'autres enfin condamneraient irrémédiablement sans autre jugement. Cependant, notre Seigneur nous révèle sa pensée et nous éclaire sur l'origine de tels agissements. Marc 7, 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes exhortés par la parole à veiller particulièrement aux pensées et aux raisonnements de nos cœurs. Alors nous allons faire une lecture, on ne va pas le lire entièrement compte tenu du temps, mais on va lire certains versets du psaume 37. Donc psaume 37, puis on sautera de temps en temps pour avancer. Donc déjà à partir du verset premier. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se font tristes comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes et le lieu où il était, il a disparu. On peut aller un petit peu plus loin à partir du 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, et peut-être les deux derniers versets, 39-40, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alors, devrions-nous être surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui? De Timothée 3,14, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Est-ce que cette liste ne reflète pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Et puis deux autres textes, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et ensuite, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Alors dans le psaume 37 que nous avons lu, du moins en partie, nous trouvons au moins deux versets qui nous indique clairement ce que nous ne devons pas faire, ce qu'il ne faut pas nous irriter. Et puis ensuite, on trouve à peu près 25 versets qui nous donnent les raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous irriter. Et ces 25 versets, il y en a 11 qui considèrent la destinée du méchant, et les 14 autres qui considèrent les bénédictions du juste. Et puis nous trouvons également 8 versets qui nous indiquent cette fois-ci ce que nous devons faire, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, dans notre conduite. Et enfin, il y a 8 versets qui indiquent ce que Dieu fait, ce que Dieu connaît, ce que Dieu approuve, ce qu'il aime. Donc ce psaume 37 ne présente donc pas seulement ou exclusivement les mauvaises pratiques des hommes et leurs conséquences. Il n'a pas exclusivement vocation à montrer du doigt le méchant, même s'il s'est fait. Mais il veut aussi et surtout nous rappeler et nous encourager à considérer ce que nous devons avoir comme attitude de cœur, comme comportement en tant qu'enfant de Dieu. Alors bien sûr, il y a au moins deux interrogations qui tombent. Ma colère doit-elle fondre sur le méchant? Sa réussite peut-elle être enviée? C'est intéressant parce qu'au lieu de porter des jugements humains sur les humains, au lieu d'être tenté de prendre la place de Dieu dans nos jugements, nous sommes dans ce psaume plutôt exhortés au verset 4 à quoi ? À considérer Dieu et à faire de lui nos délices. C'est-à-dire à trouver auprès de lui mon plus grand plaisir. Est-ce que je trouve auprès de Dieu mon plus grand plaisir ? Est-il l'objet de ma recherche de contact avec lui, ma recherche d'une relation intime et régulière ? Alors le monde nous assaille d'informations, de faits, d'analyses, de statistiques, de risques, et cela risque de nous entraîner inéluctablement à emboîter son pas, sa manière de réagir, sa manière de réfléchir, sa manière de juger. Et si nous n'y prenons pas garde, nous prenons alors le risque d'être emportés par cette vague au détriment du témoignage auquel nous sommes et je suis appelé, c'est-à-dire à être un flambeau dans le monde. Si nous n'y veillons pas, nous risquons d'imiter ce monde. Et en parlant d'imitation, nous en parlions donc dans notre étude des Actes avec nos diacres. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs !» Mais qu'est-ce qu'il faut lui dire ? L'imiter en quoi ? L'imiter dans ses habits ? L'imiter dans ses méthodes, dans sa manière de parler ? Il nous apparaît plutôt que, quand il dit « Soyez mes imitateurs », il nous invite à imiter sa qualité de relation avec Dieu. Imiter sa qualité de relation avec Dieu. Et ce psaume nous invite à changer de regard. Nous sommes invités à changer de perspective. Comment exercer la compassion, la justice, la charité chrétienne? Comment éviter le ressentiment, la vengeance, l'envie, la jalousie, sans porter les regards vers l'amour indicible de Dieu pour moi, sans considérer tous ces tendres soins à mon égard et au bénéfice de mes proches. C'est pas sans raison que le Seigneur dit dans Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Sous-entendu de l'influence du malin qui s'exerce au travers de la vie du monde. La douleur fait souffrir, l'injustice fait hurler, la mort fait pleurer. Le malin, s'il le pouvait, voudrait nous perdre, mais le Seigneur prend soin de ceux qui lui appartiennent. Nos joies, nos assurances, nos consolations, notre protection ne viennent pas des hommes ou de nos ressources personnelles, mais reposent sur l'œuvre et les promesses de Jésus-Christ. Et donc, comme un fidèle modèle, le psalmiste nous transmet son expérience personnelle Et il dira au verset 25, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné. C'est une expérience personnelle. Prenons garde à ne pas porter des regards envieux vers la réussite du méchant. Et nous sommes appelés, au contraire, au verset 16, à rendre même grâce pour le peu que nous avons. Alors, même direz-vous, parmi les enfants de Dieu, qui pourrait avoir de telles pensées? Alors, bah, pas ici, bien sûr, hein. Mais écoutons bien ceci. C'est le témoignage personnel de notre psalmiste, Asaph, qui a été confronté à cette problématique. Et voici sa réflexion. C'est au psaume 73. D'abord au verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà un homme qui reconnaît que Dieu est bon. C'est un homme engagé, chef des choristes du roi David. Un homme comme nous. Voilà un homme qui connaît Dieu comme nous et qui a, en plus, l'expérience due à l'âge, qui atteste de tout son cœur que Dieu prend soin de lui, qu'il prend soin de son peuple, des siens. Et pourtant, que dit-il? Versets 2 et 3. Mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés. Faire de Dieu mes délices, mon plus grand plaisir, c'est éviter que mes pieds ne glissent et ne se fondent avec le monde. Mais le psalmiste continue au verset 12 et 14. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est dur d'être confronté à la réalité de mes souffrances face au bien-être du méchant. Et Asaph a vraiment du mal avec ça. Pas nous? Non seulement Asaph a de la difficulté à comprendre, mais il le dit à Dieu. C'est les versets 15, 17, 21 et 25. Si je disais, je veux parler comme eux, voici que je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Psalmiste nous montre qu'il a failli être emporté par la vague de la pensée du monde. Il réalise combien il a failli trahir la race des enfants de Dieu, qu'il a failli mettre à mal le témoignage de la présence de Dieu dans son cœur. Comment? Eh bien, par le moyen de paroles et de pensées qui n'honoraient pas Dieu. Et, je fais une parenthèse, souvent, c'est dans notre environnement le plus proche, dans notre famille d'enfants de Dieu, dans notre famille charnelle, avec nos parents peut-être, ou nos enfants qu'on a le plus de facilité d'utiliser des paroles blessantes ou inadéquates, et qui vont à l'inverse du témoignage que l'on voudrait leur porter. Mais le psalmiste s'est repris. Comment s'y est-il pris? Au moment où il s'est approché de Dieu. Et s'il y avait une exhortation centrale, ce matin, ce serait de nous méfier de nos ressentis et d'entrer plutôt dans le sanctuaire de Dieu, dans sa présence. Et plus le psalmiste se rapprochait de Dieu, plus il adorait Dieu, plus il prenait conscience de la perspective divine au sujet du destin du méchant et du juste. Et pour revenir donc à ce psaume 37 et les versets qu'on en a lus, 18-19, pensez-vous que Dieu ne connaît pas tout ce que nous vivons? J'entends surtout par là ce que nous vivons de difficile. Hein. Pouvons-nous penser un instant qu'il ait vécu et donné sa vie pour nous sur la croix pour nous laisser là, sans se soucier de nous, de ce que nous vivons, et de ce qu'il va advenir de nous ou de ce que nous aimons? Pensez-vous que vous pouvez avec Dieu vous attendre au meilleur? Est-ce que je crois que Dieu veut et peut me conduire vers le meilleur? Au cœur de mes circonstances, s'attendre au meilleur, c'est avoir l'assurance, la ferme certitude que Dieu a la maîtrise sur ce que je vis, sur mon avenir, et cela parce qu'il m'aime et que rien ne peut me séparer de son amour. Croyez-vous cela? Le prophète Ésaïe au chapitre 3 dit « Dites au juste que du bien lui arrivera. » Quel message ! « Dites au juste que du bien lui arrivera. » Et le verset 34 nous dit « Espère en l'Éternel. Garde sa voie et il t'élèvera. » Et la version Semeur dit « Et il t'honorera. » Dieu est prêt à et disposé à honorer ta confiance. Nous attacher à lui, rester attachés à lui, contre toute espérance, et ça c'est le vœu de son cœur, c'est le vœu le plus cher de son cœur. Le sort de l'enfant de Dieu n'est pas entre les mains de n'importe qui pour que celui-ci s'inquiète de la méchanceté ambiante et qu'il soit porté à jalouser le sort de ceux qui réussissent sans prendre soin de considérer Dieu. Alors quelqu'un parmi vous dira peut-être « J'aimerais avoir cette foi et cette confiance, celle qui consiste à devenir enfant de Dieu et à ne pas s'attacher au bonheur des méchants, mais à ancrer sa confiance en Dieu. » Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, c'est l'histoire de deux aveugles qui ont été guéris et qui avaient crié au Seigneur « Aie pitié de nous !» C'est déjà peut-être la première chose que nous devons faire, écrire au Seigneur, « Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de moi !» Quand Jésus s'arrêta auprès d'eux, il leur dit « Pensez-vous que je puisse faire cela ?» Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ?« Oui, Seigneur !» Pensez-vous que Dieu puisse répondre favorablement à votre appel ? Pensez-vous qu'il puisse vous conduire et vous garder dans ce monde toujours plus dur et toujours plus mauvais? Qu'il puisse vous garder au point de vous introduire dans sa demeure céleste après vous avoir aidé à tout supporter? Et puis, ayant mis sa main sur les yeux des aveugles, il dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Quelle parole ! Qu'il vous soit fait selon votre foi. Au regard de ma foi, à quoi dois-je m'attendre? À des miracles dans ma vie? Heureusement que Dieu use et réuse de grâce envers moi, envers toi, et cela malgré notre faible foi et nos défaillances. La foi est la clé qui ouvre la porte des cieux. La porte des écluses des cieux. Qui déverse quoi? Qui déverse pour ses enfants les bontés et les grâces de Dieu, le soutien que Dieu veut leur accorder. Il est très important que vous veniez à la foi. Il est très important pour les autres que vous développiez et fortifiez votre foi. Et c'est important pour moi aussi. Les circonstances de ce monde doivent nous interpeller, et cela à salut, et non pas nous conduire à nous révolter, nous conduire à nous irriter. La violence, la méchanceté et l'injustice ne cessent de grandir, et leurs effets s'abattent sur le juste comme sur l'injuste. Et j'ai été interpellé par les paroles du père et du grand-père qui a perdu son fils et ses deux petits-enfants lors de la tuerie qui s'est déroulée dans le sud-ouest. Vous vous en rappelez, Montauban, Toulouse. Et chez cet homme, nous n'avons vu aucune haine. De la tristesse, certes, du désarroi. Mais nous avons vu de la dignité, mais pas de la haine. Et ce même psaume 37, versets 7 et 8, nous dit « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. » Quelle exhortation! Nous sommes si souvent et tellement confrontés à l'incompréhensible, l'inacceptable, que nous risquons des dérapages qui ne serviraient pas le témoignage de Dieu. David s'est trouvé dans cette situation, et son cœur droit, vous savez, comme l'a dit Dieu, est un cœur selon Dieu. Eh bien, David ne s'est pas dérobé à porter ses propres pensées à Dieu. Et cela, pourquoi il l'a fait? Il l'a fait par souci de conserver un cœur pur et un témoignage pur. Voici ce qu'il dit au psaume 139. Je le lis dans la version Semeur. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant? Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour te tromper. Éternel, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes propres ennemis. Puis un silence. Et David continue. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Examine-moi. Et pénètre mes pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal. Et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Et que Dieu nous garde et nous préserve dans ce monde et dans notre proche environnement, afin de ne pas être emporté par la vague, par la pensée du monde, et pour que nous puissions avoir le témoignage que Dieu attend de nous. La justice et la vérité, certes, oui, mais pas seulement. Et dans notre étude de Zacharie, jeudi dernier, il nous a été rappelé la manière dont Dieu souhaite voir vivre ses enfants. Aimer la vérité, mais aussi la paix. Aimer la vérité, mais aussi la paix. Et je vous laisse, et j'en termine là, ce verset de l'Épître aux Philippiens. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Qu'il en soit ainsi. Amen.